La deuxième balade en été de la saison, eh bien, on est carrément vraiment là en plein air et puis en pleine nature, sans quitter Chartres. À mes côtés, Pierre Boudier, qui était jusqu'à il y a très peu de temps le directeur du Muséum d'histoire naturelle de Chartres, et qui l'est toujours d'ailleurs. Il a accepté très gentiment de nous présenter comme ça des sites qui sont très chouettes à visiter ou à revisiter, comme quoi il n'y a pas forcément nécessité à faire des centaines de kilomètres pour découvrir la nature. On y est, vous pouvez même écouter, il y a des oiseaux.
Bon, nous sommes ce qu'on appelle la prairie des Trois Ponts, donc en amont de l'Eure, vers la sortie de Chartres. Là, c'est une prairie qui a conservé son caractère rural, au sens puisqu'elle est encore fauchée pour garder cet aspect de prairie naturelle. Alors par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en même temps qu'on a fauché la partie, je dirais, réservée en herbage, on a conservé, ou on laisse de plus en plus de place à une plante tout à fait originale, qu'on appelle les phragmites ou les roseaux, et qui forment ce qu'on appelle des roselières, et qui prennent de plus en plus d'importance puisqu'on essaye de favoriser cette plante. Alors pourquoi on essaye de favoriser cette plante? C'est parce que c'est un milieu tout à fait original pour de nombreux oiseaux qui nichent dans ce type de milieu, qui est un peu milieu un peu fermé, haut de à peu près 2 mètres 50, très dense. Et donc là, il y a pas mal d'animaux qui trouvent abri.
Alors, quels animaux alors?
Alors il y avait au moment de la fauche des chevreuils qui sont sortis, là, des petits des chevreuils. Mais bon, le plus original, ce sont les oiseaux du groupe des rousserolles, des phragmites, etc., qui sont des petits passereaux qui sont très très difficiles à voir, mais qu'on peut écouter au chant.
Là, on les entend chanter d'ailleurs, mais je ne sais pas si ce sont les rousserolles ou les...
Ça, c'est un autre problème au niveau de l'enregistrement, c'est un peu plus délicat. Après, ce sont des oiseaux qu'on peut observer, mais il faut être très 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 patient aux jumelles et les voir décoller un petit peu de ces phragmites. Alors, ce sont des petits passereaux, hein, ce n'est pas des oiseaux extrêmement géants, mais qui sont inféodés à ce type de milieu. En favorisant ces roselières, on garde un espace pour ces oiseaux.
Ouais. Alors, qui dit roseau dit humidité. Alors, est-ce qu'on est dans ce qu'on appelle une prairie humide ici?
Alors ici, on est dans une prairie inondable, hein, puisque l'Eure, quand elle déborde, inonde cet espace. Et le sol est relativement humide, puisqu'on se retrouve à peu près au niveau de la nappe phréatique de l'Eure. Hein. Donc oui, on est sur un sol relativement humide. Alors après, le niveau d'humidité est variable suivant les moments, hein, puisque là, après la température élevée qu'on a eue, là, ça a beaucoup, beaucoup séché. Hein.
Alors ce qui est surprenant, c'est qu'on m'a dit, voilà, il y avait des chevreuils. Il faut quand même que les gens comprennent qu'on est, près d'une grande route, que Intermarché est à deux pas, et bien qu'il y a des chevreuils quand même. Bah, ils viennent d'où
les chevreuils ont plusieurs circuits. Hein, tout n'est pas... Alors vous avez la balade des Bordeleurs, comme on vient de faire. Donc la balade des Bordeleurs, il n'y a pas que nous qui les prenons, hein, les animaux aussi. Après, il peut y avoir des espaces un peu délaissés, comme la voie ferrée, par exemple l'axe de la voie ferrée qui n'est pas très fréquenté. On a des axes comme ça qui sont relativement tranquilles et qui permettent à des animaux de circuler. Alors ceci dit, une année on a fait une nocturne ici et on avait vu hérissons, patraciens, etc. Là on parle de choses, mais il y a la nuit, quand on se promène ici, il y a effectivement tout un tas d'animaux qui circulent.
Hein. Alors, j'ai cru voir, moi, rue Saint-Brice, hein, j'ai cru voir une fouine en pleine nuit venir fouiller dans des poubelles. Est-ce que ça c'est possible ou j'ai rêvé?
Ah non, c'est tout à fait possible. C'est fait partie des animaux qui aiment bien le milieu urbain. Il n'y a pas que les hommes dans le milieu urbain. Il y a toute la vie nocturne, hein, qui peut être effectivement fréquentée par un certain nombre d'animaux. Il y a de plus en plus de renards qui pénètrent un espace urbain. Il y a donc des fouines, etc. Donc c'est pas...
Alors pourquoi les renards pénètrent davantage l'espace urbain qu'autrefois?
Ah pourquoi? Ben ça faudrait leur demander à eux. Disons que l'espace urbain est un espace qui est relativement tranquille malgré tout. Hein. Et puis il y a la nourriture, hein, il y a les poubelles, tout ça. Donc voilà, un renard a moins de chances de se faire piéger en ville que dans la campagne. Puis après il y a des espaces aussi qui ne sont pas occupés par l'homme, puisque là on est dans des zones d'espace vert qui sont quand même relativement... Alors je ne dis pas qu'il y a des renards dans Chartres, hein, je parlais de manière générale les animaux qu'on voit de plus en plus pénétrer le milieu urbain. Ouais.
Si on veut voir des animaux, il faut venir à quelle heure ici là?
Ah ben ça dépend ce que vous voulez voir. Les oiseaux, ces petits passereaux, on les écoute, on a du mal à les voir. Après, il faudrait tôt le matin, hein, c'est sûr. Ben la nuit, on voit des choses, mais bon, c'est pas des endroits spécialement comme les animaux qui circulent la nuit, comme le hérisson, les animaux comme ça. Et finalement, le jour, surtout par les chaleurs actuelles, disons que ce sera plutôt les insectes qu'on va voir. Puis en suivant l'heure, on voit énormément de petites libellules, hein, qu'on appelle les demoiselles. Donc ça,
c'est les petites libellules bleues, ça, c'est ça?
Ah, c'est ça. Donc ça, ce sont des insectes qu'on va voir plutôt, effectivement, les insectes, on va plutôt les voir dans la journée, à la mesure où c'est des animaux à sang froid, donc ils préfèrent avoir des périodes un peu chaudes. Hein.
Et je me souviens l'an dernier d'être arrivé, c'était aux étangs luisants, ça devait être le jour de l'accouplement des libellules, c'était absolument extraordinaire, on a l'impression qu'elles s'accouplaient toutes le même jour. C'est un phénomène naturel, ça c'est...
Oh ben, je peux pas trop répondre sur le fait de s'accoupler le même jour, disons que les...
Il faut le demander aux libellules.
Oui, il faudrait le demander aux libellules. Non, plus sérieusement, souvent les animaux ont des cycles très... très, très précis, enfin, ils éclosent à peu près au même moment, et puis bon, ils font leur cycle à peu près à la même période. Donc effectivement, on peut avoir des moments comme ça, ou comme les éphémères qui sortent toujours au même moment, etc.
Avant de quitter cette prairie, là, je vois tout un bouquet d'arbres là-bas, ce sont des arbres qui sont typiquement...
Alors ici, on a des arbres de zone humide. Bah, à côté de nous, on a des sol blanc, hein, Salix alba, qui est l'arbre traditionnel de ce genre de prairie, qu'autrefois, on traitait, ça s'appelle en têtard, c'est-à-dire qu'on d'ailleurs c'est le cas ici, ils sont des jeunes, mais ils ont été coupés, donc on les tête carrément à une hauteur de 3-4 mètres. Et puis après, on évite à ce qu'ils fassent des branches trop hautes. Alors, ça correspondait à une économie rurale traditionnelle, à savoir qu'en en fin de saison, on n'avait plus de fourrage. Et on donnait à manger les feuilles de sol. Puis par ailleurs, les tiges sont souples et on peut en faire des liens, etc. Alors après, dans le choix des essences, il peut y avoir plusieurs types de sols qui sont utilisés. Ce qui est très très beau, c'est dans les prairies de Luzan, où on a encore de très très beaux sols têtards qui peuvent faire plusieurs mètres de circonférence.
Hein. Les petits prairies luisants, vous parlez de celles qui sont donc sur le bord de l'Eure, avant les étangs?
En continuité de là où on est, donc nous sommes là auprès des Trois Ponts, donc si on remonte un petit peu l'Eure, on passe sur ce qu'on appelle les prairies luisants.
Il faut aller voir la Peupleraie qui est très belle, et là où on voit aussi des chevreuils assez souvent.
Voilà, aussi, oui. Bah oui, là c'est un endroit privé qui est clos, donc les chevreuils sont encore plus tranquilles que dans les endroits publics. Hein. Voilà.
Et on entend aussi beaucoup crier les faisans, hein, les cris de faisans toutes les 5 minutes.
Et ben oui, ça c'est des animaux qui ont été réimplantés et donc qui effectivement se font beaucoup plus entendre que les petits passereaux dont on parlait tout à l'heure.
Est-ce que c'est important d'avoir au-delà du côté un peu comme ça, j'allais dire, pardonnez-moi l'expression, un peu bobo d'avoir des espaces verts dans les villes, c'est quand même important pour la biodiversité et partant pour nous-mêmes aussi?
Bah, je pense que c'est pour la biodiversité certes, mais enfin pour l'homme aussi. Ça nous permet d'avoir un peu d'espace un peu plus tranquille. On peut circuler sans se faire écraser. On peut voir des choses un peu différentes des vitrines de magasins. Donc voilà, on est dans un espace qui offre d'autres possibilités.
On va faire un tour, on remonte l'heure un peu.
On va suivre l'heure.
Ouf, on est à l'ombre. Oh, qu'est-ce que c'est agréable. On profite de la fraîcheur. Moi, j'engage tous les chartrains, les chartraines de venir ici pour se balader parce que c'est vraiment très agréable. Il y a de beaux ombrages, il y a une belle fleur de liseron. Qu'est-ce qu'il y a de beau à découvrir là sur les bords de l'Eure là où on est?
On est sur les rives de l'Eure. Donc on est déjà en zone relativement humide. On a la menthe aquatique là qui est à nos pieds. on peut sentir.
Ah oui.
Voilà, hein, qui donc une menthe très 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 odorante et très agréable. Donc ça, c'est des plantes qui sont qui aiment bien avoir les pieds un peu au frais toute l'année. Et là, on voit l'heure avec les plantes qui sont présentes. Et ce sont des plantes à lanière qu'on n'aime pas trop voir parce qu'on pense que c'est sale, mais en fait ce sont ces plantes-là qui sont à la base de l'écosystème aquatique.
Alors quand vous dites à la base, ça veut dire quoi? C'est quoi leur utilité?
Alors à la base au sens où c'est elles qui apportent de l'oxygène dans l'eau. Et puis les poissons vont s'en servir à la fois, il y a un certain nombre qui vont s'en servir comme nourriture, et surtout pour les pontes. Hein. Donc alors ces plantes à lanière fleurissent très rarement parce que ce sont des plantes qui n'aiment pas trop être dans. Enfin qui fleurissent quand il n'y a plus de courant. Donc quand il y a du courant, elles poussent, mais elles ne fleurissent pas. Donc grosso modo, on peut distinguer dans ces plantes à lanière deux espèces. Le Sparganium, alors le nom français ne m'en vient pas.
Oh, c'est bien le latin, les gens iront chercher dans un gaffio.
Et puis vous avez aussi donc ça fait des lanières très régulières, très parallèles. Et vous avez une autre plante qui s'appelle la Sagittaire. Les feuilles qui sont à la surface sont en forme de lance, alors que les feuilles qui sont dans l'eau sont aussi en forme de lanière. Donc ça c'est les deux grandes plantes. Alors ce sont des plantes à fleurs, hein, ce ne sont pas des algues. Hein. Et les algues en fait qui sont dans l'heure, ce sont des organismes microscopiques. Tout ce qu'on voit là sont des plantes à fleurs.
Est-ce que ce sont ces plantes que faucarde de temps en temps, qu'on faucarde, c'est
voilà,
ça?
Alors on les faucarde en général pour des problèmes de circulation sur la rivière et non pas pour des problèmes écologiques, parce que sur le plan écologique, il vaudrait mieux les laisser.
Avis à la population ou à la municipalité.
Non, mais bon, il faut faire un compromis entre la circulation. Alors, on n'est pas obligé de faucarder toute la rivière. Je vois qu'en ce moment, là, on ne faucarde pas la bordure. On faucarde le centre de la rivière pour circuler et que les bordures ne sont pas faucardées, par exemple, là, ici, hein, dans le cas où on est. Donc, il y a quand même un souci de ne pas faire n'importe quoi. Alors, après, il y a d'autres plantes qui sont plus dans le centre de Chartres, qui s'appellent des potamos. Potamo étant le fleuve en grec. Hein. C'est les potamos jetons, en français, sont des plantes uniquement aquatiques. Et avec dans Chartres des plantes relativement rares. Hein. On a même une espèce qui n'est connue en région centre que dans Chartres. Alors peut-être que c'est parce qu'il y a un botaniste à Chartres, c'est peut-être aussi ça. Enfin bon, ce sont des plantes uniquement aquatiques. On a du mal à voir. Il faut aller les extirper de l'eau avec un petit instrument pour arriver à les sortir. Donc ce sont des plantes relativement intéressantes et sont beaucoup plus fréquentes dans Chartres parce qu'il y a plus de courant après le moulin là, qui barre la rivière.
Alors là, je me permets d'attirer votre attention sur cette plante qui donne de si jolies fleurs. Vous pardonnerez au daltonien que je suis, des fleurs un peu roses, un peu mauves. Hein.
Oui, c'est l'épilobe hirsute, donc une plante des bords des eaux. Hein. On a sur le bord de l'Eure, on va avoir un arbre. Enfin, deux espèces qui sont très fréquentes, l'aulne et le frêne, hein, deux espèces. Et puis, il se rajoute aussi le saule blanc qu'on a vu tout à l'heure dans les prairies humides. Après, il y a tout un tas de plantes à fleurs, donc l'épilobe hirsute, on a la salicaire. Et on va voir tout à l'heure, un peu plus loin, des plantes moins colorées, mais qui sont tout à fait spectaculaires, hein, comme les carex.
On voit aussi circuler des papillons. Il y a toujours évidemment la pierrite du chou qui est très commune, mais on voit d'autres papillons. Tout à l'heure, j'ai vu, alors je ne sais pas si c'est une papillon ou une libellule, avec des ailes noires qui se promènent à la surface de l'eau.
C'est une libellule, hein, on avait donc toutes ces petites libellules. Alors dans les libellules qui ont les ailes qui se replient au-dessus du corps, là, on les classe dans le groupe des demoiselles en français. Hein. Donc là, on en a plein là, qui circulent, là, ici, là, des petites bleues. Et il y en a une série qui ont des ailes vertes, vert, les femelles sont plutôt dans les verts jaunes et les mâles dans les verts foncés. Donc tout ça appartient à des. Alors c'est pour les plantes aquatiques sont très importantes pour ces insectes, puisque on les voit se poser dessus et c'est là qu'elles vont pondre, etc. Donc elles font leur cycle là-dedans.
Est-ce que les papillons sont en péril aujourd'hui?
Ah bah ça dépend où, mais disons que bon, dans Chartres moins qu'à l'extérieur. Disons que dans la mesure où il y a moins de pesticides, on est moins en péril. Après il y a la gestion du système, de l'écosystème, à savoir qu'il faut leur laisser des fleurs, il faut laisser un certain nombre d'éléments pour que les insectes puissent faire leur cycle. Hein.
Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur cette petite chenille qui se trouve là?
Ah oui, tout à fait. Là, on a une chenille qui est en train de manger une scrofulaire, qui est une plante. C'est une chenille qui parasite une plante bien spécifique, hein, qui est la scrofulaire, et qui donc, nous donneront, donc, je pense, un papillon de jour. Là. Donc là, on a le cas typique d'un insecte qui parasite une espèce très spécifique, hein, qui est la scrofulaire, qui est une plante du bord des eaux. Hein.
Avant qu'on quitte ce lieu pour aller un peu ailleurs, juste pour la menthe, là, la menthe, on peut faire du thé avec
ou... Disons que, enfin, normalement, vaut mieux se limiter, enfin moi je préfère conseiller aux gens de se limiter aux plantes cultivées des jardins, parce que quand on ramasse des choses un peu n'importe où, on ne sait pas trop où ça, quelles sont les conditions dans lesquelles ça a poussé. Hein. Mais globalement, celle-ci est consommable. Hein. Il y a d'autres menthes celle-ci, il n'y a pas de problème. La menthe qu'on consomme, la menthe poivrée, en fait, un hybride entre deux menthes, dont celle-ci.
Allons voir un peu plus loin ce que nous réservent les bordeleurs. On a fait 20 mètres de plus, mais il y a encore des choses à découvrir, et surtout vous avez retrouvé le nom du...
Donc la fameuse plante qu'on a dans l'Eure, le sparganium, donc en français c'est le rubanier, hein, donc, qui forme des rubans au fil de l'eau. Donc là on est dans un secteur où on a conservé un canal de circulation central, et on a des larges bandes de rubaniers de part et d'autre. Donc ça, c'est quand même un choix de limiter, je dirais, le faucardage. Hein. Donc et là, on a en face de nous, là, on a des rubaniers qui sont en train d'avoir des feuilles qui émergent. Donc c'est pas impossible qu'ils fassent des fleurs et qu'on puisse leur mettre un nom définitif. Donc il y a plusieurs espèces.
Ah oui, donc il faut attendre la floraison pour pouvoir les identifier réellement.
Réellement, oui. On peut donner le genre, hein, le genre sparganium, mais après dans le genre sparganium, il y a plusieurs espèces. Et là, on a peut-être l'espoir cette année de mettre un nom sur le rubanier de l'Eure, que je vois depuis très longtemps, mais que je n'ai jamais pu nommer avec certitude.
Là, on voit une libellule. Je ne sais pas, c'est une demoiselle, ça, c'est une madame, ça. Hein.
Non, ça, c'est pas une demoiselle, là, c'est une vraie libellule, hein, qui a les ailes qui restent, quand elle se pose, elles restent horizontales. On peut remarquer qu'il y a beaucoup, beaucoup de libellules. Ouais. Hein. C'est assez extraordinaire.
Est-ce qu'il y a des martins pêcheurs sur les bords de l'Eure là?
Alors il y a, moi j'en vois l'hiver. Là cette saison je sais pas, le martin pêcheur est fréquent. Donc là maintenant on a les populations nicheuses, donc c'est moins favorable pour les l'Eure est moins favorable pour les populations nicheuses. Par contre pendant l'hiver on a des populations hivernantes. Et là le secteur est plus intéressant pour les populations hivernantes, puisque le martin pêcheur est un oiseau qui niche dans des cavités dans le sol. Donc il lui faut des parois où il puisse s'implanter, ce qui n'est pas tellement le cas de l'Eure, puis c'est quand même assez fréquenté. Quoi.
Est-ce qu'on peut dire deux mots de la population, j'allais dire pas sous-marine, mais aquatique? Il y a du poisson ici, elle est poissonneuse cette rivière?
Ah bah elle est très très poissonneuse. Hein. Donc c'est pas une rivière première catégorie, deuxième catégorie. Ça veut dire que le poisson est essentiellement le type brochet et puis toutes les perches. Mais là, ça serait plutôt mon collègue qui serait le grand spécialiste des poissons. Mais non, c'est quand même un endroit relativement intéressant pour la pêche. Alors si vous voulez dans la partie traversée de Chartres, on peut distinguer plusieurs secteurs. Vous avez le secteur des Trois Ponts jusqu'au moulin, au moulin des Saint-Pères. Donc là, vous avez le moulin des Saint-Pères qui fait le niveau de l'eau. Donc on a un cours relativement calme, hein, Et par contre, c'est dans Chartres qu'on a le plus de mouvement. Hein, où l'eau, puisqu'à partir du moulin Saint-Père, là, on a une chute relativement importante et ça coule. Et dans Chartres, on a finalement des conditions qui sont presque plus favorables pour le poisson qu'en amont. Hein. Non, après, c'est juste par rapport à la manière dont l'eau circule et oxygène l'eau. Hein, parce que là, et je vois que la flore est presque plus intéressante dans Chartres que... je parle de la flore aquatique, hein, pas le reste. Mais la flore aquatique est presque plus intéressante dans Chartres que dans le secteur en amont où l'eau est beaucoup plus calme.
Et le long des bordeurs, il y a même des gens. Hein, on va les entendre en bruit de fond, Pierre.
Alors là, on a fait, on a fait 50 mètres. On est dans... Alors, ce qui est remarquable également dans la gestion là, des bordeleurs, c'est qu'on évite de supprimer la végétation. C'est pour limiter la dégradation des rives par le mouvement de l'eau. D'une part, et puis également essayer de limiter, enfin de maintenir au mieux les berges par une végétation herbacée. Alors les arbres sont intéressants, mais les arbres, le problème c'est que à partir de certaines tailles, ils sont plus intéressants parce qu'ils sont trop gros, ils tombent et ils abîment la rive. Donc la gestion d'un bord de rivière comme ça, c'est un jeu délicat entre... Bon, on peut maintenir des arbres, mais il ne faut pas qu'ils deviennent géants parce que dès qu'il y a un coup de vent, ils tombent. Et ils abîment énormément la rive. Et donc le maintien d'un maximum de végétation, sachant que ça limite l'accès au bord de la rivière et que par ailleurs, quand on veut y avoir accès, on abîme la végétation. Donc il y a un jeu, vous voyez, à faire. Donc les pêcheurs ont des endroits où ils peuvent avoir accès à la rive. Et puis d'autres endroits, ils ont moins accès puisqu'il y a de la végétation. Et là, donc, on est en bordure de... la bordure de la rivière est colonisée par des plantes un peu particulières qu'on appelle des carex. Et en français, ce sont des lèches. Là, il y a deux espèces. Il y a le carex paniculé et le carex pseudo-cyperus. Alors, donc, ce sont des espèces qui forment des... qui poussent... les rhizomes sont courts et forment des colonnes. On appelle ça des tours à dons, hein, des petites tours, qui sont dont la hauteur est liée au niveau d'eau. C'est-à-dire que puis le niveau d'eau est relativement haut par un certain temps, la plante a tendance à faire des colonnes qui peuvent monter jusqu'à 1,50 m des fois. Hein, donc là on a des tours à dons relativement modestes, mais qui commencent à se former. Et donc il y a le carex aussi pseudo-sibérique, qui est magnifique parce qu'il fait des épis retombants pour faire des bouquets secs, c'est tout à fait une plante adaptée. Donc ça, ce sont des plantes super coriaces, très, très stabilisantes pour le bord de rive, pour la berge. Et on a aussi le fameux iris à fleurs jaunes, l'iris pseudacorus, qui là est en fruit en ce moment, qui lui aussi est une plante d'arizome et qui maintient très très bien les rives. Donc voilà, quand on regarde la rivière, il ne faut pas croire qu'elle est pas gérée ou trop gérée, elle est intelligemment gérée, hein. C'est un jeu entre la nécessité de l'accès des gens et la nécessité de conserver à la fois de la biodiversité et des espaces qui se dégradent pas, hein, ouais, par rapport.
C'est l'éternel problème, hein, la place de l'homme dans la nature.
Tout à fait. Et là, je vois deux points jaunes. Là, on a des nénuphars. Je sais pas si c'est des fleurs de nénuphar là.
On va dire que c'est des fleurs de nénuphar.
je pense. On a dans l'Eure, on a aussi donc des grandes feuilles circulaires, hein, qu'on peut voir et qui forment des nénuphars jaunes, hein, qui fleurissent. Alors lui, c'est pareil, hein, il faut pas qu'il y ait trop de courant pour qu'il puisse fleurir. Donc là, on est dans une zone calme, dans ce dobiette des fleurs de nénuphar.
Alors, on a parlé de ce qui est bon pour la rive et les carex le sont. En revanche, l'éternel ennemi, évidemment, de la berge, c'est le ragondin. Alors, est-ce qu'il y a des populations de ragondins ici?
Ah ben, tout à fait. Hein, c'est le... Enfin, il y a le rat musqué ragondin qui pose problème puisqu'il creuse des... Ils creusent des trous dans les berges. Donc ça, c'est un vrai souci, je pense, en termes de gestion. Après, c'est la gestion de la faune sauvage en ville pose problème puisque on chasse pas. Donc voilà, c'est un vrai problème.
Oui, et puis le ragondin a le droit de vivre aussi un peu pas trop.
Enfin, disons que c'est des espèces introduites, des espèces américaines introduites. Le ragondin est une espèce sud-américaine, le rat musqué est nord-américaine, ça introduit accidentellement en Europe, et qui pose des problèmes quoi, par rapport à la gestion traditionnelle des espaces.
Hein, le ragondin c'est plus un myocastor, hein, c'est ça, c'est castor, plus voilà. La race des castors, c'est pas un rat.
Ah non, c'est pas des rats, non. Enfin, c'est des rongeurs, hein. Enfin, c'est des rongeurs. Mais enfin, c'est des gros rongeurs. Donc, ils posent problème par rapport à la. Disons que quand ils ont été introduits, ben, le milieu naturel n'était pas adapté à. Enfin, nous, les espaces n'étaient pas adaptés à ces espèces-là. Et donc, ils perturbent énormément le milieu.
Là, on arrive, on est presque au bout du voyage. On est en face de la petite Venise. Encore un endroit qui est très beau. On peut se reposer de manière très agréable. Et là, on a enfin trouvé la Sagittaire.
Voilà, nous sommes, les botanistes appellent un herbier aquatique, hein, donc un ensemble de plantes qui a toujours le magnifique rubanier, hein, qui n'est pas une algue, hein, qui est bien une plante à fleurs. Et là, au milieu de ces plantes en forme de ruban, il y a quelques feuilles larges, et dont certaines commencent à flotter et qui sont en forme de lance, hein, donc c'est la Sagittaire. Et dessous, au fond de l'eau, on voit encore des larges feuilles de nénuphar, qui sera le nénuphar jaune, mais qui actuellement est encore, les feuilles sont encore sous l'eau, hein. Il faudra attendre un petit peu à condition qu'on les laisse pousser, hein, parce que donc là nous sommes au ras des pédalos, donc il est bien évident que pour le navigateur, les plantes c'est un peu gênant. Enfin, l'herbier est ici, mais tout à fait magnifique. Hein.
Pierre, un grand merci à vous, et je crois qu'on se revoit très bientôt à l'Arboretum, et là vous allez nous faire découvrir de superbes essences d'arbres, il y a même un ginkgo biloba.
On ira voir le jardin, l'Arboretum de la Société d'Horticulture.
Effectivement. À bientôt.
À bientôt. There is a train. Ticket for you to ride. Put you in a car, they call the sleeper. It's nice and warm inside. Your days are never numbered. Your nights don't matter now. Your times are no longer counting. This train's got you now. It's on board, can't get off. The distance fades from you. There'll be no friends with you now, the ride is just for you. So real, vanish from your soul.